Radio Galère, bonjour, les actualités du matin avec plusieurs choses à vous raconter pour ce matin. Donc d'abord, on va commencer par l'actualité internationale avec les élections en Grèce. Donc, des élections qui ont vu la victoire de la droite. On n'a pas encore le résultat final, mais les sondages sortis des urnes sont suffisamment marqués pour qu'il n'y ait pas de doute. En profilage de sièges, il y a 300 sièges dans l'Assemblée grecque. Il y en aurait 82 pour Syriza, ancien... groupe constitué et considéré comme d'extrême gauche avec à sa tête Tsipras, 28,5% des voix et à près de 40% des voix donc pour Kyriakos Mitsotakis qui est le conservateur. Ça lui donne 167 sièges sur 300, donc la majorité absolue. Il est un fils de Premier ministre, donc c'est un retour à la familiocratie. Il parle de baisse des impôts, de libéraliser à tout va. Bon, c'est l'échec principalement de Syriza et de Tsipras avec le retournement et la politique d'austérité pratiquée par quelqu'un qui, au départ, s'était battu contre cette politique d'austérité, contre le remboursement de la dette grecque illégitime et puis qui, sous les pressions assez importantes quand même de l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale, avait cédé. Céder à la Troïka et à ses exigences, vendu la Grèce par petits morceaux, diminuer les retraites et appliquer une politique d'austérité féroce contre la population. Évidemment, ça n'amène pas vraiment à être réélu. Autre actualité donc internationale, on part aux Philippines. Avec le rapport d'Amnesty International sur les Philippines, alors vous vous rappelez sans doute que à la tête des Philippines, élu même avant Trump, c'est Rodrigo Duterte qui avait annoncé un bain de sang, comme il avait pu le faire auparavant dans sa ville. C'était inconnu, donc un misogyne féroce, un personnage qui avait mis en place des espèces d'escadrons de la mort contre les enfants des rues dans sa ville. Et là, il a donné le droit de tirer sur les trafiquants de drogue, aux policiers principalement, mais également à tous ceux qui se découvriraient une vocation d'apprenti milicien, avec donc une impunité quasi totale, notamment des forces de l'ordre. Et des autorités locales, municipales, qui sont sommées de livrer un flux constant de suspects de trafic de drogue. Il n'y a pas eu vraiment de guerre au trafic de drogue, ça continue, mais par contre, il y a eu un nombre de morts impressionnant. Le gouvernement en reconnaît 5300, mais ce serait 4 fois plus selon les organisations des droits de l'homme. La police tire, torture, emmène dans des lieux secrets pour tuer et ne cherche pas ni à comprendre ni à faire juger. Donc c'est un système totalement antidémocratique et hors de contrôle qui est mis en place et qui peut provoquer toutes sortes d'arbitraires. Hein. Il suffit de déplaire à la police pour que ça arrive, quoi. Alors, Amnesty International juge la situation tellement préoccupante qu'elle a saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et lui demande d'enquêter sur ces crimes pour rendre un minimum de justice. Dans le monde, on s'est mobilisé ce week-end contre les violences faites aux femmes ou aux enfants. En Birmanie, c'est une manifestation après le viol présumé d'une petite fille de 2 ans hein, qui est revenue de la crèche avec des blessures dont les médecins ont pensé qu'il s'agit de blessures d'un viol. Et l'enquête piétine, donc des milliers de manifestants se sont retrouvés dans les rues de Birmanie pour protester contre cette absence ou cette lenteur de l'enquête après le probable viol de cette petite fille. Et puis à Paris, c'était une manifestation contre les violences faites aux femmes. Alors tout de suite après, il y a l'écho de Muriel Robin qui continue. Alors qu'il y a des associations, bon c'est bien, hein, mais il y a des associations féministes qui se battent depuis des années, qui ont obtenu déjà quelques victoires judiciaires et même quelques reculs du machisme dans les mentalités. Et elle s'est découverte un peu tardivement une vocation de lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, elle fait écho. Bon, c'est bien, hein, ça fait de l'écho. En même temps, c'est un peu agaçant. Donc voilà, une manifestation le 6 juillet à Paris, pour rappeler que il y a eu 73 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année, depuis janvier, par leur conjoint ou ex-conjoint ou futur ex-conjoint en France. Ce qui va donner, si on pense que le rythme reste soutenu, encore 140 ou 150 femmes qui risquent d'être tuées par leur conjoint en un an. Ça représente une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. C'est trop, beaucoup trop. Et rien ne semble stopper ce chiffre. Des mesures vont être de nouveau annoncées. Ce qui est réclamé par les associations maintenant, c'est un peu plus de vigilance de la part des forces de l'ordre, avec une personne dédiée à l'accueil des victimes de violences conjugales dans les principaux commissariats, pour que les femmes ne repartent pas chez elles, tout simplement. La dernière morte, ou je ne sais pas si c'est la dernière, mais une des dernières, elle n'avait pas trouvé d'endroit où aller, et elle était revenue chez elle. Une petite victoire judiciaire aussi, d'ailleurs, c'est le fait que une femme qui avait été jetée par la fenêtre, hein, défenestrée par son compagnon et qui en est ressortie en chaise roulante, s'était retrouvée avec une responsabilité partagée dans les faits, parce que elle n'avait pas suivi le conseil de la police qui lui avait dit de pas rester chez elle. Alors que, en fait, elle était partie, elle n'avait pas trouvé de transport à la gare où la police l'avait laissée pour aller dans sa famille. Il n'y avait plus de train au milieu de la nuit. Et du coup, elle avait fini par rentrer chez elle parce qu'elle ne pouvait pas dormir en dehors comme ça. Et elle a été défenestrée par son compagnon. Et du coup, parce qu'elle n'avait pas suivi le conseil de la police, mais sauf qu'elle était en situation de nécessité, on avait trouvé qu'elle avait une part de responsabilité dans ses blessures. Donc ça a été annulé. Fort heureusement. Toujours, ça c'était une actualité un peu générale, hein, où on a abordé le national. Toujours dans l'actualité internationale, les migrants en Méditerranée, avec ce week-end, donc plusieurs bateaux hein, qui sont passé. D'abord, Malte, qui a accueilli l'Alan Kurdi et ses 65 migrants. Et puis, la marine maltaise aussi, hein, qui a sauvé un deuxième bateau au large de ses côtes avec 58 migrants à son bord. Toutes ces personnes vont être réparties dans différents pays européens et avec un accord passé in extremis par l'Allemagne et ne resteront pas à Malte. Et puis, donc samedi, 30 000 personnes ont manifesté dans toute l'Allemagne en soutien à Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch. Ce bateau donc qui a forcé la main, le premier des bateaux allemands qui a forcé la main à Salvini, hein, et à la marine italienne qui tentait de l'empêcher d'aborder à Lampedusa. Depuis donc un deuxième bateau d'une ONG également allemande, le Sea Ice, a débarqué avec 40 personnes à son bord également à Lampedusa. Et Carola Rackete se retrouve obligée de se cacher, victime de menaces physiques, d'insultes. Et elle a par ailleurs porté plainte contre Salvini, elle-même, même si elle est poursuivie en Italie. Hein. Ce dernier l'ayant à plusieurs reprises traitée de criminelle, elle qui sauve des vies, de pirate. Alors qu'elle n'a rien d'un pirate, hein, et d'emmerdeuse. Donc, en réplique à sa plainte, il a traité de communiste allemande en disant que les mafieux ne lui font pas peur et que une communiste allemande, petite fille de riche, ne lui fera pas peur non plus. Voilà, bon, ça vole bas du côté de Salvini en Italie. L'enjeu, ça sera quand même de changer les règles, la règle en particulier hein, qui veut que la personne qui entre dans l'Union européenne doit déposer sa demande d'asile dans le premier pays où elle rentre, c'est-à-dire les pays frontières. Alors bien sûr, cette règle dans l'espace Schengen, elle est couplée avec des aides financières pour ces pays, mais ça fait pas leur affaire. Et il y a de plus en plus d'accords outrepassant donc ce règlement qui existe hein, depuis déjà bon, au moins 5 ans hein, et qui pose problème à la fois aux migrants et aux pays situés sur la frontière de l'Union européenne. Un petit mot quand même sur les footballeuses américaines ou sur la Coupe du monde de foot féminine. Pour une fois, elle a été quand même assez suivie, assez mise en valeur. Et du coup, eh bien, les propos des joueuses américaines, notamment la capitaine de l'équipe hein, qui a gagné cette coupe, eh bien, sont aussi mises en exergue. Et donc, elle a déclaré, elles sont au moins deux, à avoir annoncé qu'elles refuseront d'aller à la Maison Blanche si elles sont invitées pour protester contre Trump et son ensemble, hein, son attirail de mesures rétrogrades, anti-migrants, anti-femmes, etc. Du côté des États-Unis et de l'Iran, ça ne va pas mieux. L'Iran a donc annoncé ce week-end reprendre l'enrichissement de l'uranium au-delà de l'accord qui avait été passé, qui était encore censé être en vigueur avec les pays, notamment de l'Union européenne. Du coup, ces derniers pays ont protesté contre l'Iran, le mettant en garde de respecter cet accord, sauf que eux-mêmes ne parviennent pas à contourner la sortie de l'accord des États-Unis, compte tenu du fait que la plupart des échanges internationaux se font en dollars et que tout échange international avec l'Iran est de fait soumis à la législation des États-Unis parce qu'il se fait en dollars. Voilà, alors l'Iran a essayé de négocier, il négocie avec la Chine, il a essayé de négocier quelques trocs avec l'Union européenne, mais ça s'avère un peu compliqué. Et donc, il a décidé de passer outre. Je ne sais pas si on se prépare à une guerre nucléaire dans le coin, mais on est quand même au bord de la Méditerranée, à Marseille. Ça fait peur. Du côté de l'Afrique, c'était le sommet de l'Union africaine à Niamey. Un sommet donc au Niger, assez important, hein, où on a parlé de beaucoup de sujets et où on a lancé l'Union africaine copie tout ce qu'il y a partout ailleurs, même si c'est peut-être un peu catastrophique, et notamment la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, qui comprend donc 54 des 55 pays africains. Celui qui n'y est pas, c'est l'Érythrée. L'Érythrée n'a pas encore signé, mais a annoncé son intention de le faire d'ici peu. Alors, cette zone de libre-échange continentale, elle va se mettre en place à partir du 1er juillet 2020, donc dans un an. Hein. Mais ça mettra de 10 à 15 ans pour, avec un calendrier des réductions de droits de douane, pour mettre en place l'ensemble des mesures. Il y a notamment des discussions qui sont toujours en cours sur ce calendrier et aussi hein, sur la circulation des biens importés de l'étranger, parce qu'il y en a pas mal en Afrique, des biens importés de l'étranger, des biens manufacturés. Hein. Cet accord donc, de libre-échange dans cette zone de 1,2 milliard de personnes à l'heure actuelle, ça va même permettre de mettre en place un système de paiement numérique, un portail de suivi et des règles d'origine des produits. Ça va aussi entraîner ce que le néocolonialisme imposait déjà assez souvent, ou la gestion de la dette hein, imposait déjà assez souvent, c'est-à-dire des réformes structurelles internes. Et ces réformes structurelles, elles vont toujours dans le sens du libéralisme, en fait, hein, avec peu de protection des services publics et des biens publics qui sont mis en place. Donc, c'est pas très joyeux, ces recettes. Et si l'Afrique met en place les mêmes recettes que dans le reste du monde pour cette vaste zone de libre-échange, ça peut être bien, peut-être pour certaines choses, mais... pour les populations pauvres, les services publics, ça risque d'être catastrophique. Hein. Il faudrait trouver autre chose, d'autres recettes, et notamment mettre en place des préférences locales qui visent à supprimer un certain nombre de transports hein, catastrophiques pour la pollution, par exemple. On a aussi parlé dans ce sommet de l'Union africaine de la situation en Libye. On a parlé du Soudan et de la lutte contre les djihadistes, notamment avec les 5 pays, Niger, Tchad, Mali, Burkina et Nigeria, hein, qui sont en but à des guérillas meurtrières, avec une demande de ces 5 pays de mettre en place un soutien militaire de la part de toute l'Afrique, un peu plus important. Voilà, à suivre. Puisqu'on est en Afrique, on va reparler du Soudan, où un accord est intervenu entre les militaires et l'opposition qui manifestait tous les jours dans la rue, hein, qui a une représentation, laquelle a signé un accord pour un pouvoir exercé de façon alternée entre les militaires et elle, donc alternée et ensemble, avec une direction alternée. On va voir ce que ça donne. En attendant, l'opposition a modifié ses appels à manifester. Il y aura donc une journée de commémoration et d'hommage aux martyrs, mais ça ne sera plus une journée de manifestation, hein, ça a changé de nom. Et quant à la grève générale annoncée, elle ne devrait pas avoir lieu. C'est une reprise de l'économie soudanaise et puis une reprise avec beaucoup d'espoir, hein, de, pour l'instant, donc de la population, à la suite de cet accord passé et d'une population soudanaise ben, victorieuse. Avec, certes, il y a eu de la répression, mais finalement petite par rapport au nombre énorme de manifestations et par rapport à ce qu'ils ont obtenu. Hein. Le départ d'Omar Béchir, évidemment, mais aussi un retour au moins progressif du pouvoir entre les mains des civils et l'espoir d'une nouvelle constitution et ben, d'un nouvel avenir pour ce pays. Toujours dans l'actualité du côté de l'Afrique, l'Algérie, avec en Algérie, donc bah là, ça se passe pas très bien du côté du pouvoir qui ne veut rien entendre malgré les puissantes manifestations qui se tiennent toujours tous les vendredis. Et par contre, bah, on donne quelques gages de poursuite judiciaire. Et c'est Jamel Ould Abbès qui est un ancien dirigeant du FLN, hein, à la tête du FLN, donc, qui a été mis en examen pour dilapidation de deniers publics et placé en détention préventive comme un gage de plus donné, mais qui ne va pas satisfaire pour autant la population. Dans l'actualité internationale, encore, ben on part en Allemagne avec la crise de la Deutsche Bank, la banque allemande, une des deux principales banques allemandes qui a annoncé la suppression de 18 000 emplois, qui se sépare de sa banque d'investissement. Donc, c'est les choses un peu douteuses, là, hein. Qui sépare la banque des comptes courants, tout ça, la banque normale, quoi, qui fonctionne bien, ça, elle le garde. Et tout ce qui est fonds toxiques et autres, bon, alors, elle en met une partie sur un compte à part. Et le reste, à qui elle le vend ? Elle a trouvé un acheteur, c'est la BNP. La BNP qui va acquérir les divers fonds d'investissement. Hein. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas tout à fait le vocabulaire adéquat, mais en gros, les trucs, les produits risqués, mais pas encore trop pourris, déjà considérés comme pourris, donc de la Deutsche Bank. Voilà. 18 000 emplois supprimés dans un secteur bancaire, c'est quand même énorme. Il y avait déjà eu des suppressions d'emplois l'année dernière. Donc, bon, il y a un plan, il y a un plan pour ces personnels. Autre actualité internationale encore, c'est les forages en Méditerranée de la Turquie qui vont se poursuivre au large de Chypre. De la zone de Chypre qui est contrôlée par la Turquie, avec donc des protestations de l'Union européenne, vaines protestations dont Erdogan a l'air de se foutre comme de l'an 40 quant au danger des forages du gaz en Méditerranée, hein, la destruction encore de la planète, au fait que c'est encore, ben, malgré tout, des hydrocarbures qu'on va sortir du sol pour les mettre dans l'atmosphère avec le gaz. Hein, c'est pas plus propre que le pétrole. Hein. Peut-être que c'est plus propre au sens où ça provoque pas de marée noire si une plateforme casse. Mais question réchauffement climatique, c'est tout autant une catastrophe, même si c'est présenté comme une énergie plus propre. Voilà, donc c'est pas du tout joyeux ces forages en Méditerranée. Sinon, dans l'actualité plus proche de nous et les mobilisations, il y a un appel à écrire à vos députés français pour leur demander de ne pas voter le CETA. Le CETA, c'est un accord de libre-échange et de libre investissement entre le Canada et l'Union européenne, qui est partiellement en application provisoire et qui, s'il est ratifié par tous les États, eh ben, va passer en application définitive. Or, alors que Macron avait l'air pas trop pressé, hein, eh ben, ça fait partie des mauvais coups de juillet et même de début juillet, puisque c'est le 17 juillet que les parlementaires français vont être amenés à voter. Donc, retroussez vos manches, allez sur le site du collectif Stop Tafta CETA et vous allez trouver un lien vers... un outil très pratique pour interpeller tous les députés de sa région ou bien les députés que vous souhaitez interpeller au choix, hein, pour leur demander de ne pas voter contre la ratification du CETA. C'est un accord de libre-échange particulièrement dangereux, d'autant plus que les entreprises américaines hein, à 90% ont une filiale au Canada et que c'est comme si on signait le TAFTA, hein, le traité transatlantique qui a été un peu mis au rancard. Le CETA, c'est aussi un accord qui se fait avec les tribunaux arbitraux, alors que ça soit la justice canadienne ou la justice française, il n'y a aucune raison de penser, ou la justice européenne plutôt, des pays européens, il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne serait pas capable de juger des conflits entre États et privés. Hein. Donc ce mécanisme d'arbitrage privé qui permet... aux multinationales uniquement, baptisées les investisseurs, d'attaquer les États uniquement dès lors qu'elles estiment qu'ils font des choses qui violent le CETA, des espèces de cours donc, qui ne jugent pas en fonction des lois de chaque pays, mais qui jugent ni des priorités à mettre, hein, mais seulement en fonction de ces accords de libre-échange, eh ben, c'est dramatique. Parce que quand même... la justice de chaque État, elle applique toutes les lois. Elle applique, et quand il y a conflit de législation, elle réfléchit. Hein, alors que ce type de cours d'arbitrage ou de cours de justice commerciale ne tient compte que d'une seule règle, hein, la règle du libre-échange, c'est tout. Donc voilà, ça c'est à faire avant le 17 juillet, si vous y pensez. Et puis, il y a un autre accord de libre-échange qui vient d'être signé par les négociateurs, mais qui n'a pas encore été validé, hein, entre les négociateurs de l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, hein, on rappelle que c'est un marché d'Amérique du Sud, qui comprend notamment le Grand Brésil et divers pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, actuellement quand même dirigé par un gros facho, hein, il faut bien le dire, Jair Bolsonaro. Alors, il y a eu déjà 340 organisations qui ont signé un appel à ne rien négocier et à ne rien ratifier avec un pays comme le Brésil à l'heure actuelle. Il y a d'autres appels, hein, qui ont été publiés, et notamment des appels via Campesina, une grande association de paysans dont fait partie la Confédération paysanne, par exemple. Hein. Alors, il faudrait que je retrouve... Il faudrait que je retrouve, c'est pas ça, un appel qui a été lancé donc par cette confédération paysanne, mais je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, via Campesina a lancé un appel parce que le monde agricole est particulièrement touché par cet accord avec le Mercosur. Il est déjà très touché par l'accord avec le Canada, puisque cet accord comprend quand même des quotas de viande que l'Union européenne s'est viande de vache en particulier, obligée à importer de viande du Canada, eh ben c'est pareil, hein, c'est le marché de la viande de l'Union européenne, notamment, qui va être impacté, et puis d'autres produits agricoles qui seront impactés, avec un choix d'une agriculture industrielle, alors que dans beaucoup de pays de l'Union européenne, ce sont encore les petits paysans, hein, et les petites exploitations qui sont très majoritaires. Ça risque donc d'être un peu catastrophique. Galère, eh ben, il est peut-être temps de s'écouter un petit morceau de musique, hein, puisqu'il est 8h21. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Je n'en sais rien. Une petite chanson, vite fait. Voilà. Une petite chanson d'Anne Sylvestre, et ensuite, on passe à Mille Babord, s'il y a quelque chose dedans.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il y avait rien d'autre, alors ensemble, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève. À se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements qu'une pomme à l'inventaire qu'il a volé, c'est toi, Adam. Et me savant, ça fanfaronne. Il dit, mais non, papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Lui faudra encore attendre de devenir grand-papa. Pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable ne l'est pas.
Galère. Les dernières nouvelles de Mille Babord avec à la cantine du midi, un repas de sortie baguette magique numéro 6. Donc c'est l'association 3-2-1 qui va vous régaler aujourd'hui à midi au 36 rue Bernard. Et puis ce soir, devant le Molotov, le collectif du 5 novembre organise une signature publique de la charte du relogement pour rester mobilisé dans ce début et dans cette chaleur moite de l'été. Ce jeudi 11 juillet à 14h devant le tribunal d'instance Place Montyon à Marseille, venez soutenir le squat du 59 Saint-Just contre la procédure d'expulsion qui le vise. Vendredi 12 juillet, vendredi à 19h au 54 rue Espérandieu, il y a un repas de soutien aux inculpés du mouvement des Gilets jaunes. Donc, pour soutenir les inculpés du mouvement des Gilets jaunes, mettre la pièce, manger un morceau ensemble et discuter de l'avenir du mouvement, ce sont les Gilets jaunes Marseille-Centre-Ville. C'est un repas au prix de 4 euros minimum. Ça va. Samedi, au couvent de la rue Leva, à l'ancien couvent de la rue Leva, 52 rue Leva, samedi et dimanche, donc c'est le Féministival des 13 et 14 juillet. Il y a beaucoup de choses dans ce Féministival. Voilà. Alors si c'est féministe et c'est inclusif, alors... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire inclusif, je ne me rappelle plus. Mais donc, l'écriture inclusive, c'est l'écriture qui compte, qui met en valeur les deux sexes. Donc, je suppose que c'est autorisé aux hommes. Eh bien, le mouvement de la paix a une action particulière à Avignon le dimanche 14 juillet. Ça, c'est intéressant. Il organise un défilé pacifiste. Et pacifique aussi sûrement. Donc il y a un appel Gare SNCF d'Avignon. C'est un rêve ça, parce que c'est le défilé militaire alors. Et puis lundi 15 juillet à 14h, c'est devant le tribunal de grande instance, cette fois 6 rue Joseph Autran, qui a un rassemblement de solidarité avec les Gilets jaunes interpellés lors de la manifestation du 22 juin. Ils ont été 7 à être arrêtés. Pour le moment, certains ont été placés en mandat de dépôt au Beaumet en compagnie de tant d'autres. Et donc, ils passent en procès à 14h lundi suivant. Donc, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On ne va pas... aller plus loin. Allez, si on va plus loin, parce que ça se prépare si on veut y aller. Rappelons que à Breil-sur-Roya, à Saorge et à Tende, à partir du jeudi 18 juillet et jusqu'au 21 juillet, dans la vallée de la Roya, il y a le festival des passeurs d'humanité avec les amis de la Roya. 4 jours de rencontres avec des philosophes, des historiens, des écrivains, des artistes et de nombreux passeurs d'humanité. 4 jours de découverte des paysages de cette vallée montagneuse, de son fleuve, la Roya, et de son histoire singulière. 4 jours de fêtes, de musique, de chansons, de littérature, philosophie, randonnée, dégustation. La place des migrations et de l'hospitalité dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des frontières, leur effacement est-elle une utopie? Le monde de demain s'invente aussi dans la Roya. Voilà. Eh bien, on va vous laisser. En musique sur Radio Galère.